les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Un grand écrivain rare à la radio, un reportage dans un célèbre musée, une histoire poignante au Québec et le parcours d'un jeune Syrien. Voici le sommaire de cette édition.
La liberté, ça consiste à savoir se retrancher dans une parfaite solitude. Personne n'attendait Montaigne. Et moi-même, personne ne m'attendait et je suis toujours là.
C'est un homme cultivé, provocateur et incontournable du paysage littéraire français. Philippe Solers nous a reçus dans son bureau à la Maison Gallimard à l'occasion de son nouveau roman, un grand entretien exceptionnel hors studio qui porte un regard acide sur notre époque. Nous irons aussi au Québec avec l'écrivaine d'origine libanaise Abla Faroud qui évoque la maladie mentale et la vieillesse dans un roman poétique et très incarné. Omar Youssef Souleymane est syrien, il raconte sa fuite vers la France dans un roman remarqué à sa sortie. Le petit terroriste vient de sortir en poche. L'auteur, qui s'intéresse aussi aux autres écrivains étrangers qui écrivent en français, est sur notre plateau. Et puis nous irons au musée d'Orsay avec David Fuenquinos pour un petit cadeau sonore autour de son livre « Vers la beauté » qui lui aussi sort en poche en ce mois de mai.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont en multiplex avec nous comme chaque semaine. Claire Renaud est en Suisse, libraire dans la librairie L'Atmosphère à Genève. Nathalie Clairin est en Belgique, dans la librairie La Mazerine à La Hulpe. La France est représentée par Thomas Auxerre, libraire à Puteaux, dans la librairie La Mandier. Et au Canada, on retrouve Josiane Letourneau de la librairie du Square à Montréal. Ouf, ils sont tous là. Bonjour à tous.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Bonjour. Bonjour Emmanuel.
Ça me rappelle des souvenirs, ça, ce bonjour collégial. Bon, merci d'être avec nous tous les quatre. Vous allez intervenir bien sûr tout au long de l'émission. Et bonjour Abla Faroud.
Bonjour.
Vous êtes dans nos studios de Montréal, Abla. Vous publiez le dernier des Snoro chez VLB, une histoire qui s'inspire un peu de votre propre vie. Votre frère a lui aussi été considéré comme fou à l'image de votre personnage.
Pas seulement considéré, il l'était. Oui, c'est ça. Je me suis beaucoup inspirée de lui. D'ailleurs, c'est pas le premier livre que j'écris en m'inspirant de lui.
Oui, oui, c'est vrai qu'il est présent au long de votre œuvre.
Oui, j'en ai écrit. Il est au moins dans 5 ou 6 de mes romans et pièces de théâtre.
Alors c'est un livre très fort, Abla Faroud, chargé de phrases qui nous interpellent, qui font réfléchir aussi sur la vie. Ibrahim est dans un hôpital de Montréal, il est vieux, en fin de vie, et il regarde le monde autour de lui avec une certaine distance. Quand on est plus encombré par les souvenirs, on se prépare plus facilement à partir.
Oui, il y a sûrement ça. Puis, en fait, il finit par se pardonner à lui-même parce qu'il en a fait du grabuge.
Quel genre de grabuge a-t-il fait?
Je ne sais pas si vous connaissez des malades mentales autour de vous, mais quand ils font leur crise, c'est effrayant.
Ouais, ouais.
Ils mettent le monde à l'envers. Ils peuvent. Mais ça, c'est quand il était jeune. C'est sûr qu'en vieillissant, en fait, fou, c'est peut-être une bonne chose qu'un fou vieillisse, parce qu'il a moins.
Oui, ça l'assagit, c'est ça?
Oui, il a moins d'énergie. Il a moins d'énergie, donc il peut moins déplacer les montagnes.
Ouais, c'est ce que vous avez vécu avec votre frère, ça?
Oui, mais pas seulement. Moi, j'ai une famille de fous. Alors, donc, un qui est plus fou que les autres parce qu'on l'a amené à l'hôpital, mais il y en a d'autres fous.
Il y a une phrase de sa mère qu'il va répéter 2 fois dans ce roman à Abla Faroud. C'est très joli et c'est sans doute ce que beaucoup d'entre nous pensent. Vous dites, en tout cas, et c'est ce que vous écrivez, « Je n'ai pas de peine parce que je vais mourir, j'ai de la peine parce que je ne vous verrai plus. »
Oui.
C'est la mère qui dit ça.
Oui. Je ne sais pas, quand j'ai voulu faire parler la mère à travers lui, c'est ce qui est venu. C'était ça qui était bizarre dans ce livre. Ce livre m'a été donné. Quelque part, ce livre m'a été donné parce que j'allais voir mon frère qui était complètement dans les... Il était malade et dans un hôpital, comme vous dites, ou c'était plutôt dans une maison de vieux, là.
Enfin, c'est vous qui dites, hein, l'hôpital, pour le coup, dans le livre.
Ouais. Et j'arrivais chez moi... Et là, ça sortait tout seul. Les mots s'écrivaient. En fait...
Il a été dicté, finalement.
Oui,
vous l'aviez au fond de vous.
Mais,
eh oui, c'est ça.
Assure,
c'est un peu mystique, Abla Faroun, mais c'est possible. Ça arrive.
Mais,
beaucoup d'auteurs disent ça, d'ailleurs. Ça arrive.
Oui, ça arrive. En tout cas, après, il y a un gros travail. Mais le plus gros travail, c'était de garder tout le temps en mémoire cette... et en mémoire et avec les mots, ce rythme-là que j'avais au tout début quand j'étais vraiment dans cette émotion énorme d'être enfermée au deuxième étage parce qu'on est fou et qu'on est vieux.
Alors, Abla Faroud, il y a plein de réflexions, je le disais, des phrases qui font réfléchir sur la vie. Dans cet hôpital où il s'ennuie, votre personnage dit « Tuer le temps ou le passé sans se tuer est plus difficile qu'il n'y paraît ». Et puis vous portez comme ça une réflexion sur l'âge, sur la vieillesse. Vous dites que le vieux a tout contre lui.
Le vieux a tout contre lui. Est-ce que c'est ça que j'ai dit ?
Oui.
Je me souviens plus de ce
Vous a-t-on aidé à l'écrire ce livre, Abla Faroud ? Est-ce que vous étiez deux, finalement, à l'écrire ?
Emmanuel, le vieux a tout contre lui parce que c'est tout neuf. C'est tout neuf pour lui d'être vieux. Ouais. Donc, en fait...
C'est tout neuf d'être vieux. C'est pas mal, ça.
Oui, c'est... Il faut garder ça là.
Bon, on va laisser la parole à nos libraires, hein, parce que je sens qu'il y a des incantations derrière vous. Un côté très mystique. Alors j'espère qu'on va vous dicter quand même certaines choses. Les quatre ont lu votre livre, Abla Faroud, la Suisse, le Canada, la Belgique et la France. On commence par qui ?
Par le Québec.
Par le Québec. Allez, allons-y. Josiane Letourneau, c'est à vous.
En fait, la magie d'Ostrement, c'est que, à travers le discours d'un fou, vous donnez une profondeur. Vous lui donnez une profondeur et parfois, avec les personnages de fous, on s'arrête à la surface, on ne fait qu'écouter discrètement leur discours, alors qu'ils nous racontent tout, ils nous livrent tout avec une grande authenticité, son histoire familiale et l'importance de cette histoire familiale dans tout ce qu'ils portent. Et la magie, c'est en fait la magie profondément humaine de votre roman. Cet homme physiquement diminué, vieux et fou, il exerce un pouvoir, tout le pouvoir de sa parole sur nous. Et de cette manière-là, il nous possède jusqu'au bout.
Bien, merci pour ce commentaire complet. Thomas Auxerre pour la France, êtes-vous d'accord ?
Alors oui, moi j'ai bien aimé votre livre, même s'il m'a fallu quand même 30 ou 40 pages avant de rentrer dedans. Votre style qui m'a un petit peu dérouté au début, en fait finalement fait le sel de votre roman. Je me suis un petit peu interrogé sur votre livre, je me suis demandé à quel point c'était autobiographique. En fait, on s'en fiche un peu, Emmanuel. Hein. Voilà. En fait, oui, on se laisse embarquer dans l'univers décalé du héros, donc je conseille.
On ne sait pas trop ce qui est vraiment autobiographique à Abla Faroud, effectivement.
Un livre, c'est jamais autobiographique, même si...
Si, enfin... ça arrive, plein de fois. On va le voir tout à l'heure avec Omar Youssef Souleymane. Bon, pas pour vous. La Suisse, Claire Renaud, qu'en pensez-vous ?
Alors moi aussi, j'ai trouvé que ce récit sur la fin de vie d'un homme, en fait, est particulièrement vivant grâce à son style. Votre style est aiguisé, comme en couperet, et son humour est vraiment grinçant. Et de toute la puissance de ce récit se dégage également de la douceur et de la poésie. On s'est attaché à cet homme tout le long de ce livre et on referme le livre un peu comme avec sérénité, je dirais.
La sérénité. Avez-vous vécu cela aussi en Belgique, Nathalie Clairin ?
Ah oui, moi en fait, je trouve, Abla Faroud, que vous avez vraiment réussi à nous parler très subtilement de la vieillesse. Alors, être en agréable compagnie pendant 200 pages avec votre personnage prétendu fou, ce n'était vraiment pas gagné d'avance. Et pourtant, ça a été un pur bonheur. Vieillesse et angoisse se rejoignent dans cette résistance au manque de prise que nous avons sur la vie, ces criants d'humanité. Alors les mots sont nuancés, merci, c'est juste percutant.
Il y a plein de choses dans ce livre, Abla Faroud, avec les égarements aussi du monde psychiatrique, la façon dont on soigne les malades aussi, que vous évoquez, les tentatives de suicide également. Ibrahim a tenté une douzaine fois de se suicider, mais on le rattrapait à temps à chaque fois. Et il dira, au Québec, on ne peut pas mourir tranquille, on nous sauve. C'est ça le Québec, on ne nous laisse pas choisir notre avenir.
Je trouve ça drôle.
Ah bon ?
Non mais il me dépasse ce personnage-là. C'est quand vous dites autobiographique, autobiographie de qui ?
De votre
Parce
vie.
Parce que j'ai eu un frère malade.
Oui, vous l'avez dit dans la presse, hein, dans la presse canadienne. Vous êtes beaucoup exprimé sur le sujet, Abla Faroud. Donc forcément, nos libraires ont le doute. C'est normal de savoir ce qui est vrai, ce qui est inventé. Et vous le dites qu'il y a un mélange des deux.
Il y a un mélange des deux, c'est sûr. Mais quand on veut écrire en vrai ce qui est arrivé, on n'y arrive pas.
Ouais.
C'est il faut toujours transposer, sinon c'est d'une platitude incroyable, la vie.
Vous dites aussi que la plus nuisible des mauvaises habitudes, c'est l'espoir. Vous dites que c'est la pire des béquilles parce qu'il empêche de trouver une solution.
Ah, ça, je vous dis que ça, c'est vraiment ce que j'ai senti, moi, en tant que sœur et famille de malade mental. Mmh. Ça c'est vraiment... quand j'ai attrapé ce sentiment-là, je l'ai écrit parce que c'est vrai. C'est le plus vrai de tout le livre, dans le fond. Mmh. Parce que on veut tout le temps, tout oublier et passer à autre chose. Puis on a l'espoir que ça va changer. Puis ça ne change jamais. Mmh. Non, mais ce personnage, c'est parce que c'est nouveau pour moi. Je viens de le finir et j'en ai pas entendu beaucoup parler encore. Mmh. Alors, quand vous me dites des choses, ça me fait sourire parce que c'est comme si je redécouvrais mon livre grâce à vous.
Bon, on a été ravis de le faire en tout cas. Merci beaucoup, Abla Farhoud.
Merci.
Le dernier des Snorro est paru aux éditions VLB. À suivre, Philippe Solers pour un entretien exceptionnel chez Gallimard à Paris. Philippe Solers pour la première fois dans la librairie francophone. Avant cela, on écoute le nouveau titre d'Alex Baupin.
Corinne. Camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés. Les bousculades, les cocktails et puis après. Cours, camarade, le vieux monde sans la poussière. Dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Camarade, redis-nous ton beau discours sur ton estrade, le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle, quelques décades. Et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Cours, camarade, comme tu en crèves avec lui. T'as des bandades comme on en crève aujourd'hui.
Alex Baupin avec son dernier titre. Bon, ce n'est pas très gai, mais c'est joli quand même. C'était Cours Camarade sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Et bonjour Philippe Solers.
Bonjour.
Merci beaucoup de recevoir la librairie francophone à votre bureau ici, au siège de la maison d'édition Gallimard à Paris. Vous publiez Le Nouveau, un court roman composé d'une partie de votre histoire familiale, de quelques récits autour de grands auteurs qui vous ont marqué aussi, et puis de certaines réflexions sur notre époque. Et vous y allez en toute liberté, Philippe. Seule la liberté compte aujourd'hui pour vous ?
Oui, d'autant plus qu'elle est menacée à chaque instant. La liberté, ça consiste à savoir exactement se retrancher dans une parfaite solitude et dans une parfaite clandestinité. Personne n'attendait Montaigne. Et moi-même, personne ne m'attendait et je suis toujours là.
C'est ce que j'allais dire, oui.
Je me demande pourquoi.
Est-ce qu'on vous attendait ? Ouais, c'est ça la question.
Non, absolument.
Bon, il y a Le Nouveau. Le Nouveau, c'est un bateau qui appartenait à votre grand-père. Un bateau, Philippe Solers, cela permet de partir au large. Comme ici, votre pensée, face à l'infini, en fait, il n'y a aucune retenue.
Écoutez, il y a deux sortes de personnes. Vous avez des gens qui sont des continentaux, c'est très profond, hein, des gens du terroir, des gens, vous voyez, de Corrèze, comme l'ancien président de la République.
Dites pas ça avec la grimace.
De l'Ardèche, de l'Aveyron, enfin, du Massif central, etc. Puis il y a ceux qui ont eu quand même une expérience que j'ai eue très jeune, donc de l'océan Atlantique, ou de la Méditerranée. Mais la Méditerranée, c'est une autre civilisation. Donc l'ouverture sur le large.
Vous parlez un peu de religion dans ce livre, Philippe Solers. Vous imaginez un moment que l'on localise les tombes d'Adam et Ève. Et vous dites que ce serait un formidable coup marketing, ça.
Écoutez, vous imaginez mieux. Vous aurez deux concurrences. Un, vous allez sur Mars. Ou alors, là, on dépasse tout. La Mecque n'existe plus.
Vous dites qu'il y aura une concurrence avec la Mecque.
Oh, mais la concurrence serait tout à fait dépassée. Et en plus, les musulmans seraient obligés d'aller aussi sur la tombe d'Adam et Ève. Oui, voilà, c'est pour plaisanter. C'est pour plaisanter sur toutes les questions religieuses méritent, à mon avis, d'être relues à la Voltaire et d'être désormais ironisées, tellement ça prend une place de plus en plus lourde dans le débat actuel. Regardez la mort de Vincent Lambert et tout ce qui ressort à ce sujet.
Alors, il y aurait des suicides mystiques, par exemple, et vous dites que les plus difficiles à convaincre seraient les Chinois. Je cite, ces arriérés, hélas de plus en plus performants, ne reconnaissent pas Adam et Ève comme leurs ancêtres. Ces arriérés, Philippe Solers.
Oui, mais ça, j'ironise.
J'imagine.
C'est ce que vous direz. Vous avez le choix entre Trump et les Chinois. Quel est votre choix ? Alors, la plupart des gens répondent « Ah, Trump, parce que sinon, les Chinois, c'est affreux, c'est totalitaire, c'est effrayant. » Remarquez que dans cette guerre, parce que désormais, vous avez une guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Alors, moi, je trouve que les Chinois vont s'en tirer d'une façon très fluide, très autre, et surtout les Chinoises. Je préfère de beaucoup les Chinoises aux Américaines.
Pourquoi ?
Parce qu'elles sont... Ah, voilà, là, vous me demandez pourquoi ?
Bah oui.
Et renseignez-vous.
Mais je sais pas, vous avez peut-être des éléments que je n'ai pas, Philippe Solers.
Mais entre la névrose américaine et l'intelligence chinoise qui peut tout simuler sans rien dire, vous n'y a pas.
Fantasmer, Philippe.
Mais il n'y a pas photo. Mais il est interdit de fantasmer maintenant.
Ah, bien sûr que non.
Ah, mais alors.
D'accord, bon, c'est noté en tout cas. Vous expliquez dans ce livre que vous devez tout à la bibliothèque de l'ENA, votre mère, Proust, qu'elle adorait, et qui sera, dites-vous, ignoré après sa mort des grands auteurs de l'époque. Oui. Breton, Malraux, Camus, Sartre, tous l'ont ignoré après sa mort, sauf Céline.
Oui, c'est un des grands vainqueurs. Quand vous pensez que Proust, en 1919, après la boucherie 14-18, obtient le prix Goncourt, et qu'il est opposé à des gens qui disent le bien, enfin des romanciers, des tranchées. Vous vous rendez compte, le massacre de 1418, et à qui on donne le prix Goncourt, publié par Gallimard, mais à un dandy, un homosexuel juif en plus, et quelqu'un, un mondain. Or, c'est un chef-d'œuvre admirable, car celui qui a dit le mieux, ce qui pouvait être l'identité de la France, il faut propager ça partout et que tous les francophones lisent et relisent Marcel Proust. C'est lui qui a le mieux compris, un juif homosexuel, donc, ce qu'était l'identité de la France. Comme c'est curieux.
Et pourtant, puisqu'on est chez Gallimard, Philippe Solers, il faut savoir que Proust a été refusé par la NRF à l'époque, par André Gide, qui refuse son manuscrit comme vous-même. Vous avez refusé la Belge Amélie Nothomb pour son premier roman. Donc on fait des erreurs chez Gallimard parfois.
Ne comparez pas Amélie Nothomb à Proust.
Sans la comparer.
C'est injuste. Proust est beaucoup plus féminin qu'Amélie Nothomb. Non, là.
Je veux dire, c'est injuste pour qui, ouais.
Non, attendez. Et puis Amélie Nothomb ne s'annonce pas comme un auteur qui va durer, alors que Proust, la chose est réglée. Oui, mais Gallimard s'est rattrapé par la suite, voilà.
Avec d'autres ?
Oui, avec moi, par exemple.
Bon, quelle est selon vous la musique qui pourrait illustrer votre livre, Philippe Solers ? Je sais que vous êtes très cultivé, amateur de culture générale, de musique, de peinture. Oh. Quelle est la musique que vous mettriez pour faire finalement la bande originale du livre et du film ?
Écoutez, ce serait, si vous voulez bien, prenez Glenn Gould et faites entendre l'enregistrement prodigieux qu'il fait des dernières sonates de Joseph Haydn. Vous avez ça, c'est vraiment son testament. Et là, vous avez tout, c'est-à-dire tous les oiseaux vous remercieront.
On va écouter un extrait et on va entendre nos libraires s'exprimer sur votre livre, Philippe Solers. Josiane Letourneau, au Canada, vous avez été transportée par ce livre, paraît-il.
Ben, un narrateur aussi possédé par la littérature me sidère et parfois m'essouffle même. Qu'importe, il me fait surtout croire et réaliser en fait que les histoires « ordinaires » entre guillemets sont des berceaux pour les nouveaux bateaux vierges voguant sur l'immensité du possible, dis-je, et que ce sont les ventres intimes des familles qui engendrent les drames shakespeariens.
Thomas Auxerre en France, pas trop emballé ?
Pas trop, hein, parce que moi j'ai trouvé que même si le roman est construit autour de Shakespeare et qu'il donne à voir son œuvre de façon originale et intéressante, ce texte, finalement pas trop emballé. Ça commence par l'histoire de la famille de Solers. Ça m'avait fait entrer dans les pensées agréablement. Mais en fait, par la suite, que ça soit les idées sur le monde, la religion, la littérature, l'homme et puis le féminisme, tout ça, je trouve que ça tombe de façon un peu trop définitive. Donc non, pas trop.
Claire Renaud pour la Suisse, qu'en pensez-vous ?
Alors moi, j'ai eu beaucoup de plaisir déjà à lire votre langue, que je trouve vraiment magnifique. Et j'ai navigué avec vous dans votre passé familial. J'ai trouvé que les passages sur votre famille, son héritage, sont vraiment très intéressants et surtout plaisants à lire. Par contre, je me suis perdue quand vous philosophez, que ça soit au sujet de la littérature, du monde justement, ou d'autres choses. Et je vous ai un tout petit peu retrouvé avec Shakespeare et surtout vous donner envie de le relire.
Voilà, l'avis de nos libraires. Philippe Solers, dans ce livre, Le Nouveau, il est beaucoup question de Shakespeare. Shakespeare qui a 18 ans lorsque Anne Hathaway, 26 ans, lui saute littéralement dessus afin de tomber enceinte. Ça se produit, il l'épouse pour éviter le scandale et 2 ans plus tard, ils auront des jumeaux, Hamnet et Judith. Le petit Hamnet, donc, va finir par mourir dans votre histoire. 5 ans après, Shakespeare révèle Hamlet, qui serait selon vous la résurrection d'Hamnet, on enlève le N pour ajouter un L, et ça donne quelque chose de nouveau. On est encore sur la nouveauté, comme le titre de votre livre.
To be or not to be, that is a question.
C'est être pas très francophone, mais c'est beau.
Être ou ne pas être. Ah oui, mais pour le être ou ne pas être, le verbe être est quand même là mis en relief. Par exemple, est-ce qu'on peut être et avoir été ? Oui, pourquoi pas ?
Alors dans la langue française, ça a peut-être une autre signification. Ça n'a pas autant d'intensité qu'en anglais. Et ça, vous l'évoquez dans votre livre, Philippe Solers, parce que vous évoquez les traductions faites par Gide et Bonnefoy de la pièce d'Hamlet. Et vous dites qu'ils ont rendu le texte prude alors que l'auteur s'exprimait crûment. Shakespeare y allait directement.
Et vous avez des livres qui recensent toutes les significations sous-jacentes du texte de Shakespeare, qui est bourré d'argot sexuel. Hein. Country matters, par exemple, il faut entendre cunt, c'est le con. Quand Hamlet dit ça à Ophélie, il est donc en pleine semi-pornographie. Et là, vous avez des traducteurs français, hélas. Par exemple, André Gide, qui est quand même un très grand génie. Hein. Il a pas vu Proust. Il aurait accepté peut-être Amélie Nothomb, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais bon.
Toujours que vous attaquiez, en fait.
Il est complètement à côté de la Pâque.
Oui.
Et donc, on peut le prendre sur le fait. L'autre, c'est un poète, Yves Bonnefoy, qui est très célèbre pour ses traductions. Mais vous savez, là je relève ça parce que j'ai l'habitude de lire quand même en bilingue. À gauche, c'est en Pléiade, c'est très drôle. Regardez, il y a tous les livres là.
Ouais, sur votre bureau, il y a plein de Pléiades.
Il y a tout Shakespeare.
Oui, il y a tout Shakespeare, j'avais pas vu, exactement. Oui, et Nietzsche aussi.
Mais oui, je ne passe pas une journée sans Shakespeare. Mmh. Et il faut retenir le rythme. Ouais.
Alors du coup, avec votre humour habituel, Philippe Solers, votre provocation habituelle aussi, vous vous interrogez sur le nombre de personnes en train de faire l'amour ou de se masturber au moment où vous écrivez ces lignes. Et là, je traduis à mon tour de façon prude, parce que vous le dites avec d'autres mots.
Eh bien, c'est très difficile de vous répondre, parce que...
voyons, il y a... Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là, quand vous écrivez ça? Pourquoi vous pensez aux gens qui sont en train de...
Parce que je m'étonne, voyez-vous, que ça n'apporte pas plus de connaissances aux gens qui pratiquent ce sport, nocturne ou diurne, ils devraient avoir quelque chose à en penser. Et or, c'est très rare que vous trouviez, y compris dans les livres, chez les romanciers, les romancières, ou les autrices, ou les auteurs, les écrivains, enfin peu importe, c'est très rare que vous trouviez quelque chose qui soit l'œuvre d'une connaissance, voyons.
Il faudrait le raconter, c'est ça que vous dites?
Oui, mais non, mais pas seulement. En quoi ma connaissance a-t-elle augmenté à cause de ce que j'ai fait sexuellement? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis un athée complet.
Oui. Hein? Vous avez un petit côté voyeur, non?
Non, pas du tout.
Pas du tout?
Je suis un athée. Non, pas du tout. Oui, si vous voulez. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir ce que ça produit comme connaissance.
La connaissance sur l'être, c'est ça? Sur soi-même. Et sur l'autre.
La connaissance sur l'être humain.
Oui, c'est ça. Alors, dites un peu plus loin.
Sur la différence des sexes, qui ne fait, je ne vous apprends rien, que s'aggraver de façon vertigineuse.
Vous dites un peu plus loin, le problème est là. Les humains forniquent. Du coup, on a une flopée d'enfants, comme la mère de Shakespeare, on revient à Shakespeare, qui a eu 9 enfants, dont 3 morts. Et vous écrivez, Philippe Solers, c'est un texte un peu dur. Tout cela vous paraît insensé, mais avec votre sécurité sociale médicale, votre mariage pour tous et pour personne, vos familles décomposées, recomposées, vous ne comprenez plus rien aux tragédies du passé, jusqu'à ce qu'un fait divers criminel vous bouscule.
Oui. Ben écoutez, ça, je crois que ça peut se vérifier par l'actualité, où que vous soyez.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bon, je veux dire par là que si vous êtes dans le Nebraska, vous pouvez avoir une grand-mère qui devient mère du fait du sperme de son fils. Vous voyez, je veux dire que la technique est en train d'opérer, là, voyez-vous. C'est nouveau, mon livre s'appelle Le Nouveau. Donc je suis à la trace tout ce qui est en train de se passer avec la technique. L'être qui devient tout à fait différent, c'est précisément l'être féminin. Et donc, avant que nous arrivions, prodige de la technique, à l'utérus artificiel, qui se fait un peu attendre, mais qui aura lieu.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire de tout ça? Est-ce que vous êtes un moraliste qui ne se prend pas au sérieux, Philippe Solers? Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, et d'autant plus que c'est très intéressant de ne pas se prendre au sérieux comme moraliste. Ça voudrait dire qu'on donnerait des indications pour faire plutôt le bien que le mal. Alors là, je préfère être manié une ironie pernicieuse à la Voltaire. Voltaire est un grand ami.
Bon, au moment où se clôt le Festival de Cannes ce week-end, évoquons ces actrices qui se plaignent d'agressions sexuelles dont vous parlez. Vous écrivez, on découvre que les hommes sont des porcs violents, des obsédés de domination physique, ils sévissent partout. Pour y voir clair, il faudrait connaître les mères de tous ces oseaux.
Oui, bien sûr. Je suis un peu embarrassé pour vous répondre parce que avec une vie qui a été quand même assez désordonnée dans ce qui dans cette région qu'on appelle hétérosexuelle, bien que je ne connais aucun hétérosexuel comme moi, mais passons.
Attendez, je suis obligé de m'arrêter là. Je ne connais aucun hétérosexuel comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça ne me définit pas par rapport à un ensemble supposé dont j'imagine que j'aurai les mêmes activités.
Alors, vous ne pourriez pas être homosexuel, c'est ça que vous voulez dire?
Non, parce que je m'entends trop bien avec moi-même pour chercher quelqu'un de semblable. Voyez-vous.
Plutôt autosexuel.
Non, oui, c'est tout. Enfin, je sais plus.
On est perdu.
Ces classifications sont à rire désormais. Oui. Donc, laissons-les tomber.
Vous en riez ou ça vous dérange? Parce qu'il y a le doute quand même, Philippe Sauer. Ça vous dérange l'homosexualité, par exemple?
Pas du tout.
Non, je vous pose la question franchement.
Non, bon, absolument pas. Si ça me dérangeait, j'aimerais pas Marcel Proust.
Oui, bon. Ça, c'est un exemple, oui.
Ou Georges Genet. Enfin, ou qui vous voudrait. Ou le Marquis de Sade. Si on a un peu d'imagination, voilà. Tout ça est quand même très relatif.
Bon, revenons à ces zozos, donc, qui harcèlent les femmes.
Eh bien, je disais donc, c'est pas une plainte, mais enfin, c'est un étonnement. Pas la moindre plainte à mon sujet. Comme c'est étrange.
Attendez qu'on vous dénonce.
J'ai écrit des tas de choses. Je vois que, si vous voulez, j'envie Alain Delon. D'abord, il était très beau, il est très intelligent. Il vient d'avoir une pétition contre lui venant des États-Unis, signée par 27 000 MeToo. Des MeToo. Elles n'ont pas réussi leur truc parce qu'il a pleuré à Cannes. Et aucune.
Quand on lui a mis une palme d'honneur.
Il a eu le courage, comme Valérie Solanas qui a tiré au revolver sur Andy Warhol, de tirer carrément sur Alain Delon. Ça aurait été une fin sublime.
Vous auriez aimé ça, vous?
Non.
Vous venez de le dire.
Non, mais je me trouve étrange de n'avoir jamais été l'objet d'une plainte. Écoutez.
Il y a des raisons, il y aurait des raisons.
Mais écoutez, non. Il n'y en a pas, justement. Et c'est là que ça devient compliqué.
Ah oui.
Parce que j'ai presque eu envie plusieurs fois de dire à une secrétaire de Gallimard, écoutez, portez plainte contre moi pour harcèlement, viol, peut-être même...
Ah, carrément.
Carrément pour moi. Et voilà, il y a un jugement, et alors vous touchez un pactole et on partage.
Non mais c'est vous qui le donnez le pactole, Philippe, ça va pas du tout. C'est pour faire de la communication.
Par contrat. Voilà comment on doit écrire le roman d'aujourd'hui. Voyez-vous, tout le reste, c'est quand même lourd. Soyons légers.
C'est de la poésie.
C'est du lourd, c'est de l'aveuglement. Soyons légers sur tous les sujets.
Restons dans l'illusion, on va terminer avec ça, avec la notion d'illusion que vous évoquez vers la fin de votre ouvrage. L'illusion, source d'énergie, dont il faudrait suivre le sillage, dites-vous. Qu'est-ce que c'est l'illusion, Philippe Sauer? C'est un rêve ou c'est un placebo?
C'est davantage quelque chose qui vous donne tout simplement une satisfaction dont, par ailleurs, vous savez qu'elle est illusoire. Pourquoi pas? Et donc, par exemple, en amour, il faut maintenir, si l'on a trouvé l'illusion conséquente, il faut la maintenir fermement. C'est ce que je préconise. Donc, on sait que c'est pas ça, mais puisque ça convient, eh bien, ça marche.
Bien. Alors que vous mettez une cigarette dans un fume-cigarette, c'est très élégant.
Sans filtre.
Sans filtre. Merci beaucoup Philippe Solers. Le nouveau est paru chez Gallimard, cette grande maison d'édition où vous nous avez accueillis, ici, Gallimard. Il y a quelque chose que vous aimez particulièrement dans ce bureau?
Oui, c'est ce qui est juste derrière vous. C'est un rouleau chinois que j'ai ramené de Pékin il y a fort longtemps. Et qui se lit de haut en bas et de droite à gauche. Et c'est un poème merveilleux. Vous voyez à quel point c'est beau, parce que vous avez la calligraphie qui est là comme un geste qui vous fait signe et qui n'est pas corrigeable. Par conséquent, un type qui fait ça ne corrige pas.
Il y a un gros bouquin là sur Voltaire, Voltaire en son temps. Et puis plein de livres ici avec L'Infini, votre revue. Picasso, la collection L'Infini, évidemment, que tout le monde connaît.
Et puis telle qu'elle d'autrefois, que là-haut. Vous voyez la muse qui veille sur moi. Quelle photo?
Qui est-ce?
Je ne sais pas.
C'est une femme noire allongée.
Voilà, magnifique. L'Afrique qui veille.
Merci beaucoup, Philippe Sauers.
Merci à vous.
Et pour conclure ce grand entretien, le mot de la fin, c'est pour un libraire en plateau avec notre libraire belge, Nathalie Clairin. Vous avez aimé le livre de Philippe Sauers, Nathalie?
Oui, beaucoup, Emmanuel. J'ai été littéralement transportée par ce livre. En fait, j'ai trouvé fabuleux de convoquer comme ça Shakespeare, Freud, Hemingway, de façon très naturelle, pour converser, pour se faire consoler. Et c'est cela qui donne la perspective universelle. En même temps, je vous avouerai que le lire, c'est déroutant, parce que c'est un peu un roman, c'est un peu un essai, c'est un peu une pièce de théâtre, c'est un peu beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est un livre avant tout réjouissant et essentiel, parce que malgré sa désillusion, M. Solers apparaît heureux et sage.
Oui, heureux, sage et provocateur, on l'a entendu. Merci beaucoup aussi. Nathalie. Dans quelques instants, nous serons avec un jeune auteur syrien qui nous parlera de ces écrivains étrangers qui ont choisi le français pour langue d'écriture. Et puis un reportage au Musée d'Orsay avec David Fuenquinos. Voici un duo humaniste sublime avec le chanteur kabyle Idir et le groupe toulousain Zebda. Le titre, Un homme qui n'a pas de frère. Ça veut tout dire, ou presque. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Toujours écrire sur tous les toits, que le ciel ne sera pas sans voix. Moi j'ai gardé les pieds sur terre. Un homme qui a pas de frère à quoi ça sert. Et rêver que le diable un beau matin prenne congé de ceux qui ont plus rien. À gagner ou à perdre mystère. Un homme qui a pas de frère à quoi ça sert. Tu peux promettre au désert un peu plus d'eau, mais même le plus beau de tous les cadeaux, si on sait pas comment on s'en sert. Un homme qui a pas de frère, à quoi ça sert? Et fait rire la horde de tous les gamins en éclatant les oranges d'une main, sans savoir s'ils sont pas privés de dessert. Un homme qui a pas de frère, à quoi ça sert? Mais elle en a un mot.
Le chanteur kabyle Idir avec le groupe Zebda, un homme qui n'a pas de frère. On a tous un frère quelque part finalement si on cherche bien.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
Ici à Radio-Canada première.
RTBF la première.
France Inter.
Et bonjour Mar-Youssef Souleyman.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes journaliste et poète syrien, auteur d'un premier roman, Le Petit Terroriste, qui vient de sortir en livre de poche chez J'ai Lu. C'est un roman autobiographique. Votre récit est très prenant. Vous racontez la fuite d'un jeune homme de la Syrie vers la France. C'est le livre, comme ça, d'une confrontation entre deux cultures, de deux mondes. Ce jeune homme, c'est vous. Comment se passe cette fuite pour vous ?
Plutôt, c'est une histoire d'un adolescent qui a vécu en Arabie Saoudite. Il a vécu les événements en septembre. C'est déjà mon adolescence. Comment je suis sorti de la religion, de la violence, de cette idéologie? Car quand j'étais petit, j'étais, comment dire, touché par l'idéologie d'Al-Qaïda, d'Osama Bin Laden.
Vous avez été éduqué dans une famille salafiste.
Exactement. Voilà, c'est un livre de voyage, en fait, entre, comme vous avez dit, entre deux cultures, deux langues. Et aussi, je raconte dans ce livre comment j'ai voyagé en Arabie Saoudite et puis comment je suis sorti de l'Arabie Saoudite.
Alors c'est vrai qu'il y a des passages très troublants. Omar Youssef Souleymane, vous écrivez par exemple « Mon père rêvait de partir faire le djihad en Afghanistan. Il avait enregistré tous les entretiens vidéo de Ben Laden pour que nous puissions les visionner à volonté. » Et un peu plus loin, votre mère qui vous disait « Mange bien pour devenir un grand djihadiste comme Oussama ».
Exactement. C'est pas pour celui qui a vécu dans cette époque, dans au Moyen-Orient ou dans le monde arabe en général, il comprend très bien. Osama Bin Laden était vraiment un héros pour beaucoup de monde.
Un héros. C'est,
exactement. À cause du média, comment ils ont présenté Bin Laden.
Mais même après les attentats du 11 septembre.
Même après les attentats du 11 septembre, parce qu'à cause de ce média, surtout le média d'Al Jazeera, qui diffusait tout le temps Bin Laden comme un héros, le présentait dans le monde arabe. Et en plus, ces peuples dans le monde arabe. On est vraiment des peuples qui vivent dans une situation injuste. Et pour sortir de cette violence où on subit depuis des dizaines d'années, on a besoin d'un héros. Et c'était pas seulement la famille, c'était dans la télé, c'était à l'école, c'était dans la rue.
Oui, tout autour de vous en fait.
Exactement.
Alors vous décidez un jour de dire adieu à cette vie, de dire adieu en partie à votre langue, à votre culture aussi. Vous ne vouliez pas continuer à être formaté comme ça par la religion, par le fondamentalisme, c'était ça? C'est ça qui vous a motivé à partir?
Exactement. En fait, il y a plusieurs détails. Autant un adolescent qui avait 15 ans en Arabie Saoudite, qui a vécu dans une société tellement fermée et raciste contre lui, parce qu'il avait une autre couleur, car il avait un autre accent. Il rêvait de sortir. Il avait toujours des doutes. Surtout, par exemple, quand je suis allé pour faire le pèlerinage à la Mecque, je n'ai pas senti que je suis proche à Allah. Je sentais tout le temps que je suis proche au diable, parce que...
Bien sûr, vous sentiez proche du diable?
Oui, parce que c'est un
boulot. En fait, vous vous sentiez exclu, c'est ça?
C'était un boulot paradoxe, parce qu'autant ado, pendant 12 ans, j'ai vu aucun visage d'aucune femme en Arabie Saoudite, que le visage de ma mère et son infirmière qui s'appelait Mona. Et c'est le paradoxe en Arabie Saoudite, qu'à La Mecque, c'est la seule ville où les femmes n'ont pas le droit de masquer leur visage. Donc moi, j'ai profité beaucoup, c'est-à-dire je regardais tous les visages des femmes à La Mecque, et bien que c'était à La Mecque, c'est-à-dire le lieu le plus proche à Allah. Ouais. Et je sentais tout le temps que je suis coupable, j'avais plein de...
Donc vous n'y avez pas cru à ce moment-là? Vous vous êtes dit je suis en décalage?
Si, je
crois. Avec cette société-ci?
Si, je
crois. Vous êtes croyant aujourd'hui ou pas?
Pas du tout. Non.
Pas du tout?
Non.
Alors il y a les attentats de Charlie Hebdo que vous vivez à Paris, vous racontez l'arrivée à Paris. Au moment où ça se passe, vous dites que dans la rue, nous marchons ensemble en silence, le visage des gens, les ambulances partout dans les rues. C'est la phrase que vous écrivez. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Comment vous l'avez vécu, ce moment qui a bouleversé le monde et qui a dû sans doute vous paraître décalé par rapport à ce que vous avez vécu?
Exactement, parce que cette manifestation après Charlie Hebdo m'a touché beaucoup. La même ambiance, même les mêmes mots, les mêmes rimes des slogans qui étaient répétés pendant cette manifestation, exactement ce qu'on a répété au début de la révolution syrienne contre le régime fasciste. Et ça m'a donné l'idée d'écrire ce livre parce que je me disais, si je n'étais pas sorti de cette idéologie quand j'étais en Arabie Saoudite, peut-être j'aurais été parmi les tueurs ce matin-là.
Alors vous intéressez aujourd'hui, Omar Youssef Souleymane, à ces écrivains qui, comme vous, venus de pays non francophones, ont décidé toutefois de choisir le français pour écrire. On va dire ce qui s'est passé. Vous m'avez contacté pour un projet, celui de parler de ces auteurs et de faire leur portrait, de tenter de comprendre justement. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va essayer ça. Vous avez choisi de nous parler d'Atiq Rahimi.
Oui, parce que cet auteur me touche beaucoup, son écriture, car déjà j'ai lu Atiq Rahimi en arabe. Son roman La pierre de patience m'a beaucoup touché. Oui, je ne savais pas que ce roman était traduit dans la langue arabe.
Parce que c'est écrit en français.
En français, exactement. Ouais. Donc, je ne savais pas qu'Atiq Rahimi écrive en français déjà. Voilà. Donc, arrivant en France, j'ai appris qu'Atiq Rahimi est en France, écrit en français, etc. Puis, j'ai relu ce roman dans la langue française et j'ai redécouvert le roman à nouveau dans sa langue maternelle, je peux dire. La langue maternelle d'Atiq Rahimi, d'aujourd'hui, bien qu'au. Ouais. Je pense que ce n'est pas sa langue maternelle.
Ouais, parce que c'est le persan, sa langue maternelle.
Persan, je pense, oui.
Et d'ailleurs, il écrit certains passages en persan qu'il traduit en français. Il y a des...
Ah oui.
Oui, il alterne comme ça.
Super. Voilà. Donc, ce qu'on m'a touché aussi, que c'était mon cas dans l'écriture de ce livre, Le Petit Terroriste, parce que je l'avais déjà écrit écrit en arabe. Quand j'ai rencontré mon éditrice, c'est elle qui m'a proposé de réécrire le livre en français. C'était une super aventure pour moi parce que par rapport à la langue, quand on réécrit un livre ou quand on n'écrit pas dans sa langue maternelle, je pense qu'on peut redécouvrir notre personnalité, notre style. À nouveau quand même.
Ah, c'est ça, vous pensez que les auteurs qui choisissent la langue française redécouvrent, ils découvrent une autre facette de leur personnalité, une autre façon de s'exprimer. C'est ce que vous avez ressenti vous-même.
Exactement. Et c'est une richesse et c'est une chance. Je dis aujourd'hui que je rêve en français, mais je pleure toujours dans la langue arabe. C'est-à-dire la mémoire, elle reste arabe, mais l'avenir est français. Et c'est pour ça le livre d'Atik Rahimi, parce qu'il a un style en français si simple et si profond à la fois.
Oui. Bon, bah écoutez, vous reviendrez nous parler d'autres auteurs, pourquoi pas. On verra ça ensemble. Merci beaucoup, Omar Youssef Souleymane. Je rappelle que votre premier roman, Le Petit Terroriste, est paru en poche chez J'ai lu. Merci, Omar. À bientôt.
Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires avec les coups de cœur et les coups de gueule. Tout de suite, on commence avec un coup de cœur dans le rayon des bandes dessinées au Canada, Josiane Letourneau.
Oui, je peux pas laisser passer une nouvelle BD jeunesse d'Isabelle Arsenault. Je peux pas résister. Alors, allez, la quête d'Albert à la pastèque.
Pas.
Oui, je me laisse aller, je me lâche.
Lâchez-vous.
C'est le volume 2 de sa série, La bande du Mylène. Alors, je lis la quatrième de couverture. Jusqu'où un enfant doit-il aller pour un peu de tranquillité? Alors, c'est la quête d'Albert qui veut lire tranquille. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça ne met de l'air. Je dirais que graphiquement, elle est toujours au rendez-vous. Isabelle Arsenault, elle a un style unique qui me ravit tout le temps. Alors vraiment, c'est une réussite pour moi.
La quête d'Albert aux éditions La Pastèque. Très bonne maison d'édition qu'on salue au passage. Merci Josiane. Un autre coup de cœur en Belgique, Nathalie Clérin.
Oui, pour moi un coup de cœur pour un livre de poche dans le registre donc polar. Il s'agit du livre « Crime de sang-froid ». Voilà 11 nouvelles policières, ficelées au mieux par de toutes bonnes plumes françaises telles que Yann Manoc, Marcus Malte, Franck Tillier, Olivier Norek et j'en passe. Avec toutes le point commun que l'assassin tue de sang-froid. C'est un délicieux florilège de frissons et ça vient de paraître aux éditions Point.
Vous êtes parfaite, vous avez tout dit. Merci Nathalie, encore un coup de cœur. Thomas Auxerre en France.
Eh ben oui, un gros coup de cœur et moi aussi je me lâche pour le dernier livre de Brigitte Fontaine aux éditions du Tripode.
Ah oui.
Alors le titre c'est Paroles d'Évangile. Alors c'est un condensé poétique de ses pensées, c'est beau à lire et à entendre, ça raconte le monde, alors celui de Brigitte mais aussi le nôtre.
Celui de Brigitte il est un peu foufou. Hein.
Exactement.
À l'image de cette émission aujourd'hui.
Bah voilà, moi j'ai été ému en lisant ce livre, je me suis aussi bidonné, par exemple, elle observe tous nos tics de langage contemporain, vous savez, les « en fait », les « voilà », les « du coup », les « en vérité » qui viennent d'apparaître. Voilà, en plus il y a un super dessin d'Enki Bilal sur la couverture, franchement, que demander dessus, que demander de plus, du coup.
Ah oui, formidable, vous avez tous les tics de langage. Merci Thomas, on termine avec un coup de gueule. Quand même, dans le rayon des beaux livres en Suisse, Claire Renaud.
Oui, moi c'est pour la peinture anglaise de Turner à Whistler. C'est le catalogue de l'exposition qui a lieu à la Fondation de l'Ermitage.
Bah oui.
Alors, allez voir l'exposition et ensuite regardez éventuellement le catalogue parce que ce catalogue ne fait absolument pas envie. D'abord, il y a cette ouverture criarde. Ensuite, les illustrations à l'intérieur sont banales, sans intérêt et ne cassent vraiment rien. Et au lieu de tenir en livre d'art, on a l'impression de tenir en livre scolaire. Et il ne donne vraiment pas envie.
Non, on a compris. On a compris. Et c'est vrai que souvent, les catalogues d'art sont complètement ratés. J'en ai plein les placards, je dirais, parce qu'on ne va pas les mettre dans une bibliothèque. Il y en a qui sont très mauvais et d'autres qui sont magnifiques. Merci beaucoup Claire. L'exposition se tient au Musée de l'Ermitage à Lausanne jusqu'au 2 juin. David Fuenquinos a publié « Vers la beauté » le 22 mars 2018 chez Gallimard. Il vient de sortir en poche chez Folio. Voici un petit cadeau sonore. Nous sommes allés au musée d'Orsay avec lui pour parler d'art, le sujet principal de ce livre. Nous sommes dans un lieu sacré, un sacré lieu je dirais, le musée d'Orsay. Bonjour David Fuenquinos.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous aimez au musée d'Orsay, David ?
Pour moi, c'est vraiment le lieu majestueux à Paris par excellence. Simplement entrer dans le musée, être au cœur de cette ancienne gare absolument sublime et d'une beauté extraordinaire, ça me remplit de joie. J'aime bien parfois simplement venir me promener sans spécialement venir voir des tableaux ou des expositions, simplement pour être dans ce lieu que j'aime plus que tout.
Alors, le musée d'Orsay, vous l'écrivez dans votre livre, puisqu'il y a un livre, Vers la beauté, aux éditions Gallimard, qui met en scène comme ça à la fois le musée d'Orsay et des personnages qui sont passionnés par l'art, qui se sauvent d'ailleurs grâce à l'art. Et vous dites, le musée d'Orsay, ancienne gare, et on est effectivement sous une verrière, la célèbre verrière qui est très très haute de plafond, d'une beauté à couper le souffle, dites-vous.
Oui, c'est impressionnant. On a l'impression que le musée d'Orsay existe depuis toujours. Il a à peine 30 ans. Et c'est vrai que dans mon roman, mon personnage quitte tout du jour au lendemain pour devenir un simple gardien de salle. Et c'est vrai qu'on peut parfois se consoler juste à la proximité, comme ça, de ce qui peut nous toucher, que ce soit un paysage, un lieu de culte. Et en l'occurrence, pour mon personnage, voilà, la proximité avec des œuvres.
On va aller devant une toile, David Fuenkinos, puisque votre personnage s'appelle Antoine Duris. Il va tout quitter pour venir travailler ici. Il était professeur aux Beaux-Arts de Lyon et il se retrouve, comme vous l'avez dit, gardien de salle. Il se met face à un tableau qui l'inspire tout particulièrement, un Modigliani, qui est le portrait de Jeanne Hébuterne. Racontez-nous, le temps qu'on aille voir un tableau, qui est Jeanne Hébuterne?
Bah, tout d'abord, c'est vrai que mon roman repose sur un mystère. On ne sait pas pourquoi cet homme quitte tout du jour au lendemain. Et notamment en étant face à ce portrait de Jeanne Hébuterne. Il passe ses journées et ses heures face à elle. Elle était la dernière compagne de Modigliani. Il l'a peinte d'ailleurs d'une manière absolument sublime. Et Jeanne Hébuterne, c'est aussi un destin tragique. Elle a tout quitté pour Modigliani. Elle était folle amoureuse de lui. Et puis quand il meurt très jeune, alors qu'elle est enceinte de leur deuxième enfant, elle va se suicider. Et c'est vrai que c'est un destin tragique dont on pressent finalement parfois dans le regard, en regardant les tableaux, la tristesse infinie.
Comme sur une coursive, une sorte de passerelle au milieu du musée d'Orsay. David Fuenkinos, il y a un rapport charnel à l'art dans ce livre. La sexualité ne suffit pas à votre personnage Antoine, ça le place d'ailleurs dans une grande mélancolie. Mais l'art, pour lui, c'est une consolation.
Oui, c'est vraiment une consolation. En ce sens, c'est un livre très personnel, parce que moi, j'ai été très gravement malade à l'âge de 16 ans. La découverte des livres à ce moment-là, de l'écriture, de la peinture, de la musique a changé ma vie. J'étais pas du tout issu d'un milieu culturel. Ce qui se dégage du beau, c'est aussi assez spirituel, c'est émotionnel et c'est ce qui peut nous penser et nous consoler. On voit dans le livre que chacun cherche son propre chemin à la consolation et que Antoine Duris, quand il quitte tout, ça s'explique pas. C'est pas une décision intellectuelle, c'est une pulsion, c'est son corps qui décide d'aller se réfugier là où il s'estime heureux, c'est-à-dire au milieu d'une salle entourée d'œuvres d'art, ici au musée d'Orsay.
Merci beaucoup David Fuenkinos.
À bientôt David.
À bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici la chanteuse congolaise Alpha Pétulet.
Baranjeka kutembeya mpolie Kalmu kalamusha semaki nataka machi Eba kanyungilo na wende ukabeku mutonie Kalubumba afuar semaki machi yote Imachi yote itambu kamutonie Kulukurea kalmu kalamusha na kalulubumba afu Baranjeka Baranjeka kutembeya mpolie Kalubu kalamusha semaki machi yote Imachi yote itangu kamutonie Mumutonie, mumutonie, mumutonie Mumutonie, mumutonie, mumutonie Mumutonie, mumutonie Tonie, 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 tonie Janin bakot banapen banapen aku wanam Janin bakot banapen banapen maruke Janin bakot banapen banapen aku wanam
Alpha Pétulet avec Dounia, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet.
c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal, avec Tiffany Battistel à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Teuchère en Suisse, René Mikils avec Valérie Le Put en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet avec Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, une émission éclectique avec Marie Binbin, Tina Kiefer, Bernard Comment et le groupe néo-calédonien Kaori pour un titre dans notre studio. Bonne semaine, bon week-end à tous. Salut.